Les colloques du Collège de France.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre les travaux sur cette journée de colloque sur cette année 1979. Et cet après-midi, dans cette première séance, j'ai le plaisir d'accueillir trois chercheurs qui vont parler chacun de leur pays de prédilection, si je puis dire, la Syrie, l'Irak et le Liban. Et nous allons explorer, pour reprendre dans l'intitulé de cette séance, les habits neufs de l'autoritarisme et en quoi cette année 1979 a du sens par rapport à l'intitulé de cette session. Pour en parler, donc j'accueille Manon Nour Tannous, qui est docteur en relations internationales, qui est maîtresse de conférences à l'université de Reims-Champagne-Ardennes et qui est chercheuse associée à la chaire Histoire contemporaine du monde arabe du Collège de France et au centre Thucydide de l'université Paris-Panthéon-Assas. Manon Nour est une spécialiste en particulier de la Syrie, puisqu'elle a écrit plusieurs ouvrages, dont sa thèse, qui porte sur la Syrie. Et Manon est également membre et elle a présidé le Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient et aujourd'hui en plus rédactrice en chef de la revue Mondes Arabes. Donc ça fait beaucoup de responsabilités et de tâches. La deuxième intervenante de cet après-midi est Loulou Rachid, qui est chercheuse spécialiste de l'Irak et de l'autoritarisme baasiste, donc on aura l'occasion d'en parler plus en détail cet après-midi, qui a été post-doctorante au sein d'un programme européen qui a travaillé sur l'autoritarisme, donc elle est en plein dans cette réflexion sur ce qu'est cet autoritarisme. Et elle est docteure du Centre de recherche internationale de Sciences Po, le CERI, où elle a soutenu en 2010 une thèse de sciences politiques intitulée « L'Irak de l'embargo à l'occupation, dépérissement d'un ordre politique ». Donc elle a aussi travaillé à l'International Crisis Group, enfin une connaissance intime de l'Irak, et donc qu'elle va partager avec nous cet après-midi, en particulier autour de ce que représente cette année 79 et des conséquences de cette année. Et puis Stéphane Malsagne, qui est agrégé d'histoire-géographie, docteur en histoire, l'Université de Paris 1, et spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient, et qui intervient également à Sciences Po Paris régulièrement. Alors, évidemment, ces différents chercheurs ont aussi beaucoup écrit. Je ne vous ai pas donné le détail de tous leurs ouvrages, mais vous les avez sur le programme. Et donc, Stéphane a beaucoup écrit sur le Liban, dont il est un spécialiste. Et donc, il parlera de ce pays, plus particulièrement cet après-midi. Alors, nous sommes réunis pour parler donc de cette année 1979. J'ai proposé de découper cette séance en trois temps. Et pour chacun de ces trois temps, les trois intervenants vont nous faire part de leurs réflexions et de ce que leur inspire cette année 1979. Et je vais commencer un premier tour de table concernant donc la Syrie, l'Irak et le Liban dans le cadre des recompositions régionales qui sont à l'œuvre donc autour de cette année 1979. Et pour cela, je vous propose de commencer avec Manon Nour Tannous qui va donc nous parler de ce que représente justement ou quelle est la place de la Syrie dans ces recompositions régionales, comment celle-ci s'articule autour de cette fameuse année 1979. Donc l'idée, c'est que vous parliez chacun 7 minutes pour qu'on ait le temps de faire les trois cycles de questions et de vous laisser ensuite un temps de questions-réponses.
Merci Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors la Syrie sur la scène régionale à l'aube de 1979 ne peut être comprise sans voir ce qu'a construit Assad depuis son arrivée au pouvoir en 1970. Et il est parvenu à faire de la Syrie non plus un enjeu sur la scène régionale, mais un acteur dans ce que Patrick Sille a appelé la lutte pour le Moyen-Orient. Et tout ça, il le construit progressivement au cours des années 1970. On peut en citer trois moments simplement qui illustre ça. La guerre de 73, qui est une défaite militaire, mais autour de laquelle le régime syrien produit un discours autour de la victoire d'octobre. Donc la guerre de 73 est enseignée dans les livres scolaires pour les jeunes écoliers syriens comme étant la guerre de libération. Assad est, à partir de ce moment-là, désigné comme étant le combattant. Donc la Syrie construit une image d'étendard de la résistance, à laquelle adhère d'ailleurs plus ou moins la population syrienne. C'est le fameux « comme si », elle fait « comme si », c'est tous les travaux de Liza Whedon sur cette question-là. La population syrienne fait comme si elle croyait à ces mythes que construit le régime, ici le mythe de la résistance. Deuxième moment important des années 70, c'est l'intervention au Liban en 76, où Assad fait le choix de s'allier avec les chrétiens libanais contre les Palestiniens et les Libanais sunnites, ce qui va heurter une grande partie de la population syrienne, qu'il s'agisse des islamistes ou de la gauche syrienne, pro-palestinienne. On y reviendra, c'est un des éléments de fragilisation de son pouvoir en 79, même s'il y a ensuite un retournement d'alliance sur la scène libanaise. Et 78, ça a été largement évoqué ce matin, c'est la paix donc entre l'Égypte et Israël qui met un terme à l'unité arabe, à cette idée de front arabe, si jamais il avait déjà existé en tant que tel, mais qui donne un rôle unique à la Syrie en tant que membre à la tête de ce qu'on a appelé le front du refus. Donc au cours de cette décennie, Assad va montrer comment il gère les questions régionales en segmentant les problématiques pour en faire des atouts pour sa propre pérennité, pour la survie du régime. Donc ce sont ces dynamiques qu'on retrouve en 79 qui vont poser la Syrie comme un acteur central dans la région et qu'on retrouve dans des grandes séquences de cette année comme le sommet des non-alignés à La Havane en septembre 79. Où Assad prend la parole contre l'Égypte. Je cite quelques-unes de ses phrases. L'Égypte, qui se trouvait dans la tranchée des Arabes contre Israël, se trouve maintenant dans la tranchée d'Israël. L'Égypte que nous portions dans nos cœurs voit maintenant son régime tirer des flèches dans nos cœurs. Et donc, à l'issue de ce discours, l'isolement du Caire est consacré au sein du mouvement des non-alignés, donc la politique syrienne d'isolement de l'Égypte également. L'autre évolution spectaculaire de cette année, c'est la réconciliation avec l'Irak. Donc l'Irak bassiste, le frère ennemi cette région moyenne-orientale. Une réconciliation qui va être l'événement le plus important du sommet arabe, le fameux sommet de Bagdad, fin 78, et qui a été poussée alors, d'une part par l'URSS, alliée des deux pays, mais dans une alliance beaucoup plus construite avec l'Irak, et donc qui a envie de voir ces deux alliés moyen-orientaux se réconcilier, et d'autre part par la dynamique de Camp David, donc la signature de la paix entre l'Égypte et Israël, qui fait que l'Égypte sort de ce front arabe. Donc, réconciliation syro-irakienne, avec en janvier 79 une annonce d'unir les pays, l'annonce aussi d'un pacte de défense, donc ça va très vite. Et en fait, ça se déconstruit aussi très vite, puisque cette réconciliation ne durera que 8 mois, et elle prend fin avec l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein, qui sera évoqué tout à l'heure par Louloua, en juillet 79. Saddam Hussein dénonce un complot contre l'Irak. Le mois suivant, il pointe un auteur de ce complot, c'est-à-dire la Syrie, qui serait derrière le complot contre l'Irak. La Syrie dément, mais les relations sont fragilisées, et sont fragilisées plus encore par le choix que fait Assad de se rapprocher de l'Iran, après la révolution iranienne qu'on a aussi évoquée ce matin, ce qui est une provocation supplémentaire pour Bagdad. Ce qui m'amène donc à cette question iranienne, qui est un autre changement important dans la politique régionale de la Syrie, et qui place le régime dans une situation ambiguë, puisque assez vite après la révolution, Assad fait le choix de se rallier à ce gouvernement révolutionnaire. C'est un choix qu'il va d'ailleurs défendre sur la scène arabe. Au sommet arabe de Tunis en novembre 79, donc le sommet arabe désormais est à Tunis et ne se réunit plus au Caire suite à la signature des accords avec Israël. Lors de ce sommet arabe à Tunis, la Syrie se solidarise, publicise sa solidarité avec l'Iran et s'en prend au camp réactionnaire arabe. Et donc, elle rejoint, si on veut, une alliance avec l'Iran, alors qu'en face vont se solidariser, un peu par effet miroir, l'Irak, la Jordanie et l'Arabie saoudite. Mais la révolution iranienne a une autre conséquence en Syrie, qui est qu'elle consacre l'essor de l'islam politique comme idéologie de rechange au nationalisme arabe qui a montré toutes ses failles et toutes les difficultés d'avoir des résultats politiques pour la population. La révolution iranienne donne un horizon politique aux groupes islamistes en général, sunnites ou chiites, en l'occurrence on parlera des groupes sunnites. Or ce sont ces groupes que le régime va combattre au cours de l'année 79, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, dernier point, sur la stratégie du régime syrien dans la guerre froide, ce qui a été aussi évoqué en introduction de ce colloque. La Syrie a une position plutôt pro-soviétique, on l'a vu avec le rapprochement avec l'Irak, mais Assad arrive à maintenir une position de non-alignement de manière assez savante. J'en veux pour preuve plusieurs exemples. En 77, il rencontre le président Carter à Genève, qui est une sorte de confirmation par les États-Unis que la centralité syrienne est reconnue, que le rôle de la Syrie dans la région est reconnu. Et d'ailleurs, les États-Unis ne sont pas hostiles à ce moment-là à la politique libanaise de la Syrie. À côté, on a des tensions avec l'URSS assez fortes, puisque du fait de la défection de l'Égypte dans la lutte contre Israël, les demandes syriennes sont de plus en plus pressantes lors de visites à Moscou pour obtenir de l'armement et pour obtenir une aide soviétique significative pour parvenir à un rééquilibrage des forces avec Israël, la fameuse parité stratégique. Et on le voit dans des commentaires assez cinglants, j'en cite un, en 78, le ministre syrien de l'information, qui écrit dans le quotidien Tishrin, donc un des organes du pouvoir, « La Syrie mesure le degré d'amitié des autres pays à l'étendue de leur aide pour l'établissement d'un équilibre stratégique avec Israël », donc signifiant bien que c'est sur ce point-là que la Syrie choisira ses alliances. Et donc on a quelque chose d'assez intéressant qui se construit, qui est que Assad conserve l'alliance soviétique, tout en arrivant, malgré le déséquilibre des forces entre la Syrie et l'URSS, tout en arrivant à résister aux injonctions soviétiques, notamment à la signature d'un traité d'amitié, on y reviendra plus tard. Et en même temps, il envoie des signaux aux États-Unis qui reconnaissent la centralité syrienne dans la région, que ce soit pour éviter une politique de nuisance syrienne ou pour obtenir de la Syrie des concessions sur les questions régionales.
Merci beaucoup Manon Nour pour cette première approche du sujet et que je voudrais prolonger en fait avec l'Irak puisque en fait Manon Nour a quand même parlé pas mal de l'Irak dans de la relation entre la Syrie et l'Irak et donc je pense intéressant Loulouha de prolonger cette discussion et donc d'aborder maintenant sous l'angle de l'Irak et donc dans ses recompositions régionales et sa relation avec la Syrie.
D'accord. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier Henri Laurence pour ce colloque. J'ai toujours pensé, alors je ne suis pas historienne de formation, il m'arrive de faire un peu d'histoire pour les besoins de la démonstration, mais je reste convaincue que l'année 1979 est une année qui a vraiment scellé le destin de l'Irak. C'est une année qui a été lourde de conséquences pour l'Irak, pour les destinées des Irakiens. La révolution khoméniste, bien sûr, aux frontières de l'Irak, est un tournant, est un fait historique majeur pour l'Irak. C'est un véritable tournant. Et je pense que c'est un événement dont les conséquences vont se déployer dans la longue durée, dont les répercussions, dont les ramifications vont avoir de lourdes conséquences pour les Irakiens. Cette révolution khoméniste va, à mon sens, mettre en branle tous les antagonismes propres à la société irakienne. Elle n'en est pas responsable, évidemment, mais elle va les approfondir, elle va renforcer les polarisations au sein de la société irakienne. Et je pense que la boucle, pour moi, est bouclée par 2003. C'est un cycle qui s'est ouvert en 79 et qui ne se terminera qu'en 2003. Parce que finalement, la révolution islamique a eu lieu en Irak à partir de 2003, et c'est une autre invasion militaire, l'invasion américaine, qui aura permis à la mouvance islamiste chiite irakienne, qui était en effervescence dès le début des années 70, finalement, d'arriver au pouvoir. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental à garder en tête. Il y avait déjà en Irak une effervescence islamiste chiite à partir du début des années 70, qui finalement n'aura pas pu renverser le régime pendant les années de guerre contre l'Iran, qui en dépit de toutes ces tentatives, de toutes les guérillas menées à l'intérieur de l'Irak, n'est jamais parvenu à ébranler l'autoritarisme du régime, n'est jamais parvenu à ébranler le règne de Saddam Hussein, et il aura fallu une invasion militaire de l'ampleur et de la magnitude de celle que les Américains ont infligée au pays en 2003 pour mettre un terme à cette exceptionnelle stabilité autoritaire qu'a connue l'Irak entre 1968 et 2003. Donc, pour revenir plus précisément à la question d'Agnès sur l'Irak dans les recompositions internationales et régionales à la fin des années 70, je dirais que l'année 1979 est, de ce point de vue-là, une année qui marque en fait l'apogée de l'Irak. L'Irak était au fait de sa puissance. C'est véritablement un âge d'or que l'Irak, qui avait commencé au début, je dirais au milieu des années 70, à partir de 1973-1975, l'Irak est entré dans une période extrêmement faste, une période de croissance économique, de boom pétrolier. Entre 1973 et 1978, les revenus pétroliers de l'Irak ont été multipliés par 10. Donc évidemment, cela a donné, pour la première fois dans l'histoire de l'Irak, des capacités à l'appareil d'État, à l'appareil de coercition, des capacités qui étaient inégalées. C'est effectivement à cette époque-là que l'appareil d'État, l'appareil de coercition, le contrôle du territoire atteint son paroxysme en Irak grâce à la manne pétrolière. Donc ça, c'est important, c'est extrêmement important à garder en tête. Au moment où l'emprise du régime, l'autoritarisme se consolide grâce à cette manne pétrolière exceptionnelle, en même temps, l'Irak, sous la houlette de Saddam Hussein, qui était à l'époque, jusqu'en 79, qui n'était que Sayed Monsieur le vice-président, le numéro 2. Nous n'oublions pas que Saddam Hussein était extrêmement jeune, charismatique, et Saddam a été l'artisan, a été a été extrêmement habile dans la gestion de la guerre froide. L'Irak a été véritablement un acteur de cette guerre froide et non pas simplement un simple pion dans le conflit entre les deux blocs. L'Irak, tout en ayant signé un traité d'amitié et de coopération au début des années 70 avec l'URSS, s'est extrêmement rapproché des pays occidentaux. L'Irak était courtisé par l'ensemble des pays occidentaux, à commencer par la France, l'Allemagne de l'Ouest et le Japon, avec lesquels il avait des échanges commerciaux extrêmement importants. L'Irak avait réussi cet exploit, en fait, à être très bien à l'aise avec les deux camps, à faire du commerce et du business avec les deux camps, à continuer à recevoir des fournitures d'armes de l'URSS tout en achetant des mirages à la France. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. L'Irak avait mis en sourdine, en fait, avait finalement l'Irak de Saddam Hussein, ou sous la houlette de Saddam Hussein, avait réussi à tourner la page de la révolution de 1958, à tourner la page de cette rhétorique pan-arabe, nationaliste, extrêmement radicale, du socialisme. L'Irak était devenu de plus en plus pragmatique sous la houlette de Saddam Hussein, on l'oublie, puisque on a eu par la suite l'Irak post-Koweït, mais on oublie que Saddam Hussein a été le véritable artisan d'une normalisation de l'Irak, non seulement avec son environnement régional, mais aussi avec son environnement international. L'Irak de Saddam Hussein a développé, a tourné la page sur tous les conflits qu'il opposait à son environnement régional, avec la Syrie pour une période provisoire. L'Irak a aussi tiré profit de l'isolement de l'Égypte, de sa mise au banc des nations arabes. L'Irak a à ce moment-là donné, l'Irak de Saddam Hussein a voulu combler le vide, a voulu jouer un rôle de leadership. En remplacement de l'Égypte. L'Irak a aussi normalisé ses relations avec le Shah d'Iran par l'accord d'Alger de 1975 dans lequel les deux pays mettaient fin provisoirement, en tout cas à leurs différences sur le Shatt al-Arab. L'Irak a aussi normalisé ses relations avec les monarchies du Golfe. Il s'est rapproché de l'Arabie Saoudite, mais il a su aussi tourner la page sur l'épisode traumatique de Abdelkarim Qassem, qui en 61 avait voulu annexer le Koweït une première fois. L'Irak a finalement mis en pratique une politique étrangère extrêmement réaliste, pragmatique, où il était question de principes de non-ingérence dans les affaires des autres États, où il n'était question que de coopération bilatérale, et je dirais surtout, un élément extrêmement important, nonobstant la rhétorique panarabiste, une politique de respect du statu quo territorial. L'Irak de Saddam Hussein a soldé ses différents territoriaux avec l'Arabie Saoudite, mais aussi avec le Koweït. Donc c'est un moment où, finalement, par le biais de cette politique extrêmement réaliste, extrêmement pragmatique, loin de tout ce dont on a crédité Saddam Hussein par la suite, c'est-à-dire l'aventurisme, une politique, enfin la folie, la folie, l'ivresse de la puissance. Au contraire, Saddam Hussein, dans les années 70, a su patiemment construire le retour de l'Irak dans le giron des nations civilisées, et il a su entretenir des relations extrêmement positives avec le monde occidental, à tel point qu'à la fin des années 70, à Washington, on percevait l'Irak, et surtout après le lâchage du Shah d'Iran, l'Irak finalement était bien placé pour prendre la relève de l'Iran en tant que gendarme du Golfe arabo-persique. Ça, c'est extrêmement important à garder en tête. En 1979, l'Irak était un pays extrêmement respectable, un pays puissant qui disposait de moyens énormes, de ressources économiques et de ressources militaires sans égale. Et d'ailleurs, je mentionnerai le fait que aussitôt l'Afghanistan envahi par les soldats soviétiques, l'Arabie Saoudite se tourne vers l'Irak immédiatement. Je crois que c'était à peu près une semaine après l'invasion. L'Arabie Saoudite signe un accord de sécurité avec l'Arabie Saoudite dans lequel l'Irak de Saddam Hussein s'engage à protéger l'Arabie Saoudite en cas non seulement de menace irakienne, mais d'invasion soviétique. Donc c'est quelque chose de fondamental qu'on oublie par la suite, puisque l'histoire irakienne est une histoire qui est très dense et qui est... Chaque guerre, une guerre succède à une autre, une catastrophe à une autre. En fait, dans cette succession des catastrophes, on oublie cet âge d'or de l'Irak dans les années 70, un âge d'or non seulement à l'international et dans le giron arabe, mais aussi en interne, un âge de prospérité économique, de construction des infrastructures, mais ça, on y reviendra dans un deuxième temps. En tout cas, pour moi, l'année 1979 en Irak est une année qui est marquée par un pays au fait de sa puissance et au fait de son rayonnement à la fois régional et international.
Merci beaucoup, Loloua. Effectivement, ces rappels, je crois, sont très importants parce que l'actualité de l'Irak est telle qu'on a oublié des moments importants et qui, en fait, sont quand même là dans l'histoire de ce pays, et d'où l'importance de les rappeler dans cette première partie de cette séance. Nous allons maintenant passer au Liban avec Stéphane Malsagne qui, lui, va nous parler de tous ces retournements des alliances auxquels on assiste sur le théâtre libanais, avec évidemment les conséquences du processus de l'accord de paix entre Israël et l'Égypte dont on a parlé ce matin, mais aussi le rapprochement Syrie et avec l'OLP, et évidemment les conséquences aussi de la révolution islamique. Donc à vous Stéphane.
Merci beaucoup Agnès, et merci au professeur Henri Laurence pour son invitation. Ah, pardon. Merci au professeur Henri Laurence pour son invitation. Alors oui, le cas libanais est un cas tout à fait spécifique qui très différent du cas irakien. Si pour l'Irak, les années 70 sont un âge d'or, ce n'est pas du tout le cas pour le Liban. Quand on parle du Liban en 1979, on parle d'un pays qui a une particularité, c'est que d'abord il n'y a pas d'État en tant que tel, ou en tout cas il y a une sorte de souveraineté hybride entre un État failli qui ne contrôle qu'une toute petite partie de son territoire, puisque le reste est aux mains de territoires miliciens, et il n'y a pas non plus de société libanaise en tant que telle, puisque on parle d'abord en 1979 de communautés confessionnelles qui entretiennent souvent entre elles des rapports extrêmement conflictuels, y compris à l'intérieur même de chaque communauté. Alors, l'année 79 au Liban est une année intéressante, d'autant que l'historiographie, traditionnellement, ne considère pas 79 comme un tournant dans l'histoire du Liban, de manière un petit peu paradoxale. 79 au Liban est souvent intégré dans une séquence beaucoup plus large. Samir Kassir, par exemple, qui est l'auteur d'un ouvrage célèbre sur la guerre du Liban, intègre l'année 79 dans une séquence qu'il appelle la séquence de la guerre tournante, hein, qu'il fait commencer en 77, qu'il fait terminer en 82. L'historien Fawaz Trabulsi, qui est aussi un grand expert de la guerre civile libanaise, intègre aussi l'année 79 dans une séquence 77-82 qu'il appelle, lui, le long coup d'État. En l'occurrence, il fait allusion au coup d'État donc préparé par Bachir Gemayel, qui deviendra président en 1982. Donc 79 n'est pas, a priori, considéré dans l'historiographie comme un tournant. Et pourtant, à y regarder de près, il y a un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait décisifs et qui vont contribuer à façonner le Liban des années 80, et y compris le Liban actuel. Alors, pour comprendre l'intérêt de l'année 79, il faut bien avoir en tête qu'il y a à ce moment-là une situation qui est un renversement d'alliance qui en fait a commencé dès 1978, à savoir que ce renversement d'alliance fait qu'à partir de 78, notamment, les chrétiens libanais qui avaient fait l'union avec, enfin en tout cas qui avait appelé la Syrie à intervenir en 76, les chrétiens rompent avec la Syrie et se rapprochent de plus en plus d'Israël. Et cette tendance, en fait, a commencé en 1978 et va se poursuivre en 1979. Donc la rupture entre les partis chrétiens et la Syrie va être une des données fondamentales. Cette rupture entre les partis chrétiens et la Syrie va s'accompagner également d'un rapprochement entre l'OLP et la Syrie, puisque la Syrie était intervenue militairement au Liban le 1er juin 1976 à la demande des partis chrétiens contre l'OLP et contre les partis progressistes qui étaient à l'époque regroupés dans ce qu'on appelait le mouvement national. Bon. Alors, les chrétiens avaient fait appel à la Syrie en 1976 parce qu'ils craignaient en particulier pour ce qu'ils appelaient l'équation libanaise, la remise en question de l'équation libanaise. Cette équation libanaise, c'était en gros l'idée que les chrétiens avaient obtenu depuis l'indépendance un certain nombre de garanties institutionnelles qui leur réservaient des postes importants sur le plan politique et dans l'administration. Et ces garanties institutionnelles, on l'appelle pacte national, ont été de plus en plus remis en question à la fin des années 60, par les partis de la gauche libanaise qui ont considéré que les institutions libanaises ne leur permettaient pas d'accéder aux postes qu'ils méritaient à leurs yeux. On était dans un contexte de croissance démographique à l'époque où, effectivement, les musulmans devenaient de plus en plus majoritaires et aspiraient donc à de plus en plus de postes dans l'administration. Donc c'est dans ce contexte de la crainte d'une remise en question de leurs privilèges que les chrétiens avaient fait appel à la Syrie en 1976. La Syrie avait également décidé d'intervenir au Liban en 1976 pour simplement protéger ses propres frontières, puisque Hafez el-Assad craignait en particulier qu'un succès de la révolution libanaise menée par les partis de gauche n'entraîne une révolution qui entraîne elle-même une intervention israélienne au Liban. Donc c'est pour éviter l'intervention israélienne au Liban qu'Hafez el-Assad avait accepté notamment de faire intervenir ses troupes à la demande des partis chrétiens. Or ce qui se passe en fait à partir de 1978, c'est donc la rupture de cette alliance entre les partis chrétiens et la Syrie. Cette rupture, elle a deux origines. D'une part, le rapprochement des partis chrétiens avec Israël. Ce rapprochement est en fait un rapprochement qui s'est accéléré à partir de 1977. Un certain nombre de dirigeants israéliens font des visites régulières en Israël. Il y a des liens historiques, d'ailleurs, entre les maronites du Liban et le mouvement sioniste, qui remontent à l'entre-deux-guerres. On n'y reviendra pas maintenant. Et ce rapprochement, évidemment, ne pouvait pas être validé par la Syrie. De la même manière, la présence syrienne devenait pour les chrétiens du Liban de plus en plus pesante à partir de 1977-1978, ce qui a amené donc à la rupture. Bien. Donc, je dirais que la véritable rupture pour le Liban serait davantage 1978 que 1979. La révolution iranienne de février 1979 apporte une nouvelle donne, puisque avec donc l'arrivée au pouvoir de Khomeini, on assiste à une redistribution des cartes encore sur la scène libanaise, puisque l'OLP va se rapprocher donc de Téhéran. Yasser Arafat sera le premier dirigeant arabe à se rendre en fait à Téhéran après la révolution iranienne, il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, la Syrie elle-même va se rapprocher donc de l'Iran, puisqu'on est dans le cadre de la rivalité entre les deux partis basses, syriens et irakiens, et on sait que dans le cadre de la guerre Iran-Irak, la Syrie va prendre le parti de l'Iran. Et cette redistribution des cartes donc, va complexifier en 1979 le théâtre libanais, et le complexifier au point qu'elle va mettre en place les conditions de ce que certains ont appelé le bourbier libanais. C'est-à-dire, finalement, que des puissances étrangères, donc la Syrie en 1976, Israël en 1978, qui va envahir le sud Liban à partir du mois de mars, vont s'ingérer de plus en plus dans les affaires libanaises. Israël, en envahissant le sud Liban en mars 1978, ce qu'on appelle l'opération Litani, va se retirer quelques semaines après du sud Liban, mais mettre en place néanmoins au sud Liban une milice qui est financée exclusivement par Israël, donc, et notamment dirigée par un chrétien libanais qui s'appelle Saad Haddad. Et cette milice sera en quelque sorte le bras armé d'Israël au sud Liban pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'Israël se retire du Liban, donc dans les années 2000. Et donc, le jeu des puissances régionales, Syrie, Israël, associé aux milices libanaises qui sont elles-mêmes liées à ces puissances régionales, va complexifier le jeu libanais et créer donc les conditions de la mise en place d'un bourbier. Le traité de paix du 26 mars 1979 ne fait qu'entériner finalement une situation qui a déjà été mise en place donc, en 1978. La politique israélienne au Liban à ce moment-là, après le traité israélo-égyptien, sera d'affaiblir les capacités donc, de l'OLP par des bombardements massifs, puisque le lendemain même du traité de paix du 26 mars, le littoral libanais et le sud surtout du Liban donc, vont être violemment bombardés. Et la stratégie en fait israélienne dès le printemps 1979 est d'affaiblir les capacités de résistance de l'OLP. Et d'une certaine manière, il y a une sorte de montée en puissance de la volonté de destruction des infrastructures de l'OLP qui trouvera son apogée, si on peut dire, lors de l'invasion de 1982, mais qui déjà va crescendo à partir de 1979. En 1979, l'actualité libanaise, c'est dans les journaux essentiellement des bombardements israéliens en continu sur le sud Liban, sur les régions côtières, dans les camps de réfugiés palestiniens. Ce sont des représailles menées par l'OLP ou d'autres groupes palestiniens. Donc c'est l'actualité récurrente en 1979 au Liban. Donc la situation est donc très compliquée, puisqu'on a un Liban qui n'est pas un État souverain, mais qui est un État sous tutelle, sous double tutelle en 1979, une tutelle syrienne, une tutelle israélienne via notamment le territoire du Sud, sous contrôle de la milice de Saad Haddad, et un certain nombre de proto-États, des États miliciens qui se sont créés en parallèle à l'État central, qui ne contrôle qu'une partie de son territoire. Et ces États miliciens qui sont des États qui vivent finalement de la prédation, qui ont leurs propres ressources, sont de plus en plus puissants, L'État palestinien, le mini-État palestinien qui se crée au Liban à partir des années 78-79, est un État qui est capable de faire vivre à peu près 10 000 personnes directement, qui fait travailler 30 000 personnes indirectement, qui a un budget qui se chiffre à plusieurs centaines de millions de dollars à la veille de l'année 82, et qui est capable d'assurer des services, notamment sociaux, très importants à la population des camps de réfugiés. Bon. Donc ça, c'est le phénomène majeur. L'autre phénomène majeur, évidemment, c'est que 79 va, au Liban, mettre en place les conditions de la création non pas du Hezbollah qui va être créé plus tard, en fait plutôt suite à l'invasion de 82 qu'à 79, mais qui va mettre plutôt en place les conditions de la création d'un proto-Hezbollah, dont on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure. Donc il y a bien effectivement un effet 79, l'émergence d'un islamisme politique qui est lié à la révolution iranienne, et il y a bien, en effet, quand on y regarde, mise en place d'un bourbier libanais en 79, qui va contribuer à faire durer la guerre pendant encore plusieurs années, et par ailleurs, la mise sous tutelle d'un État qui, finalement, était fondé en 76 sur à la fois le soutien de la Syrie et le soutien des chrétiens, et comme, finalement, l'union entre la Syrie et les chrétiens a volé en éclats. L'État libanais est fragilisé, c'est l'État du président Sarkis. Donc c'est un État qui est pris en tenaille à la fois entre la Syrie et entre les chrétiens. Et cet État d'Ilyas Sarkis prendra finalement parti des chrétiens et favorisera la montée en puissance donc, d'un homme qui est un chef de milice, donc le chef des forces libanaises, Bachir Gemayel, dont le père a fondé le parti des Kataeb, qui est un parti qui est plutôt de tendance fascisante, et qui donc sera porté au pouvoir grâce à l'aide donc d'Israël en 82. Voilà. Donc on a une situation donc qui se complexifie et qui, quand on y regarde de près, effectivement, montre bien qu'il y a un impact réel de l'année 79 dans le renversement des alliances et du jeu politique libanais.
Merci beaucoup Stéphane. On va revenir effectivement dans un deuxième temps sur certains points que vous avez commencé à aborder. Et donc dans cette deuxième partie de cette séance de cet après-midi, je voudrais qu'on revienne sur les situations intérieures des trois pays dont on vient de parler. Et ce que l'on sait, c'est qu'en Syrie, il y a déjà dès 1979 un certain nombre de tensions en interne dans le pays, qui va être après le point d'orgue, les événements de Hama. Et donc, on voudrait voir comment s'articule à l'intérieur de la Syrie, justement, dans la foulée de cette année 79, la pression qu'il y a et surtout les tensions auxquelles le régime va faire face, d'une contestation quand même très forte.
Oui, en effet, en 79, sur le plan interne, il y a le sentiment qu'on est à l'aube de quelque chose en Syrie. C'est pas simplement notre lecture rétrospective qui sait ce qui se passe de manière un peu de plus en plus dense jusqu'en 82. C'est aussi le sentiment des contemporains. On l'évoquait au début du colloque. Est-ce que les contemporains se rendent compte du basculement? Ici, oui, en partie, et on le voit dans ce qu'ils écrivent à ce moment-là. Et notamment, je pense à une série d'articles dans le journal Al-Thawra, qui est aussi des organes de presse du régime, où est mentionné le fait d'être au seuil de la guerre civile, ou un peu plus loin, au seuil d'un temps rongé par le mal. Alors, ce qui est révélateur déjà de quelque chose qui ne durera pas, qui est un espace, à un moment donné, laissé à la critique interne, puisque si ces textes paraissent, c'est qu'ils ont été approuvés par le ministère de l'Intérieur. Et donc, il y a quelques textes qui comme ça, vont alors évidemment critiquer les ennemis du régime à ce moment-là, les islamistes, on va y revenir, mais qui s'interrogent aussi sur la gestion de la crise par le régime et sur les voies que met en place Assad pour parvenir au socialisme, etc. Donc, il y a un espace semi-critique qui se referme très vite en 79, mais qui a le mérite de nous permettre de voir le sentiment des contemporains, le sentiment d'être à un moment de basculement. Alors, quel est le contexte? On l'a dit tout à l'heure, Assad est arrivé au pouvoir il y a une petite dizaine d'années à ce moment-là. Le champ politique syrien est scindé en deux, pour le faire de manière assez schématique, avec d'un côté tous les partis qui ont accepté de rejoindre le Front National Progressiste, donc c'est cette alliance de partis autour du Baas, qui consiste à coopter des courants de gauche ou des courants nationalistes et à donner l'illusion d'un multipartisme. Et de l'autre côté, tous les autres partis interdits, par définition interdits, et c'est sur cela qu'on va revenir pour expliquer les troubles internes. À l'aube de 79, on a aussi tous les signes d'une érosion du pouvoir en Syrie, avec une désaffection lors des élections législatives en 77, avec des critiques de plus en plus acerbes de la corruption du régime, l'impression que le clientélisme, les pratiques de clientélisme sont de plus en plus ouvertes, avec des postes publics attribués à des proches du régime, qu'il s'agisse de la communauté alaouite ou de membres du parti basse. Des critiques aussi sur l'arbitraire du régime et sur le plan économique, une ouverture qui ne porte pas ses fruits et qui suscite le mécontentement des grandes familles de commerçants sunnites qui se trouvent mises à l'écart et du pouvoir et du champ économique et donc qui vont à un moment donné pour certaines d'entre elles se trouver être des alliés objectifs des frères musulmans. Donc une érosion du pouvoir, ce qui n'empêche pas que Assad endosse vraiment les nouveaux habits, les habits neufs, je crois, pour le titre de cette séance, de l'autoritarisme. En 78, seul candidat, il est réélu avec 99,6% des suffrages exprimés, avec toutes des manifestations de pouvoir. On trouve dans les archives l'idée que sur la colline qui surplombe Damas, on voyait s'illuminer la nuit une enseigne disant « oui » à Hafez al-Assad, donc avec tous les signes déjà d'une hyper-personnalisation à la fin de ces années 70, ce qui explique que les oppositions plurielles se renforcent, et parmi elles, les partis qu'on va évoquer, mais aussi les ordres professionnels et certains membres du parti basse qui ne sont pas d'accord avec la manière dont est menée la politique. Ça nous amène à des troubles internes qui commencent en 76, là aussi quelques années plus tôt, avec des campagnes d'assassinat de personnalités proches du régime, à commencer en 76 par le chef des renseignements de Hama, qui était d'origine alaouite, avec des attentats contre des cibles officielles dans les grandes villes du pays, et Damas n'y échappe pas. Des attentats et des assassinats qui ne sont pas revendiqués, mais qui sont, selon le vocabulaire de l'époque, le fait de mouvements intégristes sunnites. Qu'est-ce qu'on recouvre sous cette appellation ? Les frères musulmans et des groupes proches, parce qu'en fait, le parti frères musulmans est interdit en Syrie depuis 1963, depuis l'arrivée du régime bassiste, et donc il se perpétue à travers d'autres organisations, mais il reste en pratique existant. Pourquoi les frères musulmans arrivent à emporter une certaine adhésion ? Parce que leur notoriété, elle se construit en miroir de celle du régime, de la représentation du régime en tout cas. Le régime est dominé par une classe rurale, les frères musulmans vont mettre en avant une identité citadine. Le régime est aux mains d'une minorité ou promeut l'alliance des minorités confessionnelles. Les frères musulmans, eux, défendent une identité sunnite. Et ils vont mettre en avant donc un discours posant l'islam comme la solution à l'humiliation, et tout ça en mobilisant un répertoire révolutionnaire qui est d'ailleurs pas un registre incongru dans ces années. Ce registre révolutionnaire, il est assez développé. Donc on a une montée des événements qui vont crescendo depuis 76, et 79 c'est un moment de bascule. Pourquoi ? Parce que le 16 juin sont assassinés des dizaines d'officiers, de jeunes officiers alaouites à Alep, à l'académie militaire. Et c'est un tournant pour plusieurs raisons. D'abord, en regardant le discours que le régime porte sur les événements. Avant ça, pour tous les événements qui ont précédé assassinats et attentats, la presse n'en parlait pas. Donc il y avait le silence sur les événements. Là, c'est trop grave et trop connu pour être caché par le gouvernement, qui donc se met à commenter ce qui se passe, et qui le fait en imputant les événements non plus à l'Irak voisin, ce qui était la pratique jusque-là, mais aux frères musulmans. Donc de manière nouvelle, en 79, les frères musulmans sont nommément accusés, mais, et c'est là la subtilité de la gestion de la crise par le régime, tout en niant qu'il y a un problème confessionnel. Et donc quand le ministre de l'Intérieur, par exemple, mentionne les événements et accuse les frères musulmans, il omet de préciser que les officiers assassinés appartenaient à la communauté alaouite. Donc le régime, à partir de là, va essayer de ramener sur le terrain politique un conflit qui est emprunté au langage religieux. Un autre exemple, il y a un dossier de Maghreb Mashrek qui a été numérisé, qui relate ces événements de 79, où on trouve plusieurs déclarations, et j'en cite juste une autre, celle du Front National Progressiste, donc la coalition de partis autour du régime, qui, dans son communiqué, met en cause les frères musulmans, s'attache à démontrer le caractère politique et social de leurs attaques, et surtout le lien avec les ennemis extérieurs de la Syrie. Donc juste un extrait. « Aujourd'hui, au plus fort de la lutte contre les accords de Camp David et l'alliance de Sadat avec les sionistes et les Américains, nous devons affronter à l'intérieur les plus féroces attaques des forces de l'obscurantisme et de la vengeance des agents israéliens et américains. » Donc on a un complot égypto-américano-sioniste, et c'est un discours qui va se perpétrer du côté du régime. L'autre élément de basculement, c'est que l'appareil répressif se mobilise pleinement. On change de niveau dans la violence qui est mobilisée. Jusqu'alors, si on regarde les documents contemporains, on avait l'impression que Assad alliait répression et tentative de conciliation avec l'annonce de réformes, mais qui n'ont jamais abouti. On a l'impression aussi d'une certaine lenteur à réagir, c'est en tout cas l'analyse de Patrick Seale, hein, le biographe d'Assad, qui explique que le président syrien a eu du mal à reconnaître les fractures de la société syrienne, et je le cite, « le conciliateur s'est transformé par la force des choses en despote », on pourrait éventuellement y revenir, mais en tout cas, à partir de 1979, tous les moyens sont bons pour assurer la survie du régime, et les contemporains ont conscience aussi qu'il sera difficile de revenir en arrière sur ce choix répressif. Alors, qui s'occupe de cette répression? Ce n'est pas l'armée, c'est un acteur qui est lui aussi central dans ces années-là, les brigades de défense, qui sont donc un groupe armé dirigé par Rifat al-Assad, le frère du président syrien, qui est le groupe le plus armé, le plus équipé, le mieux équipé, majoritairement alaouite, le plus visible. Les Syriens ne s'y trompent pas, ils savent très bien qui est l'acteur de la répression. Les partenaires étrangers non plus ne s'y trompent pas, et ils voient comment Assad devient dépendant pour sa survie de ce groupe, des brigades de défense, mais devient du coup dépendant envers son frère. Et ça, c'est une problématique qui va occuper le début des années 80. Dernier point, puisqu'on parle des partenaires étrangers, peut-être leur vision de ces événements, parce que c'est aussi quelque chose qui va marquer toute la suite dans le rapport, en tout cas, des pays occidentaux à la Syrie. Quand on regarde les commentaires des partenaires étrangers, leur analyse se fait toujours avec un œil sur ce que les événements disent de la stabilité du régime ou non. Donc, alors, d'une part, le discours de lutte contre l'islamisme n'est pas pour leur déplaire, ils sont un peu tétanisés par ce qui s'est passé en Iran, mais surtout, la boussole reste la stabilité du régime. Les archives françaises parient sur la capacité d'Assad à rétablir la stabilité, se hasardant même à écrire, je le relève quand même, parce qu'on pourrait le commenter, tout le monde est d'accord ici pour reconnaître que le général Assad est le meilleur président que la Syrie ait jamais eu à sa tête. Analyse attribuée, il faut quand même le dire, à une certaine empathie de l'ambassadeur de l'époque qui était surnommé l'ambassadeur bassiste. Mais plus que ça, en fait, à partir de ce moment-là, la France acte que le régime est un moindre mal. Et ça, c'est une grille de lecture qui va durer des décennies. Les Britanniques aboutissent aux mêmes analyses. Quant aux Américains, ils ont un accès plus restreint au champ politique syrien, d'où une analyse erronée, en tout cas pour une partie du département d'État. Les Américains parient en octobre 1979 sur la chute du régime d'ici un an. Et donc leur analyse, c'est que les régimes arabes sont caractérisés par une phase ascendante, puis par un déclin, qu'Assad a entamé son déclin, et que, là aussi je cite, on pouvait le regretter et s'en inquiéter légitimement, mais son sort paraissait scellé.
Ça fait effectivement une belle conclusion à cette partie, quand on voit ce qui s'est passé depuis et comment ce régime est toujours en place. Merci beaucoup, Manon Nour. Maintenant, on va passer là encore à l'Irak, savoir quelles sont les conséquences en interne dans le régime bassiste de Saddam Hussein et qu'est-ce qu'il y a à dire de cette évolution sur la scène intérieure.
Je crois qu'on peut reprendre quasiment mot pour mot tout ce que Manon a dit sur la Syrie dans les années 70 et le catapulter sur l'Irak des années 70, à la différence près que l'Irak disposait de la manne pétrolière, ce qui n'était pas le cas de la Syrie. L'Irak, finalement, puisque le mot stabilité est un mot extrêmement important, à travers ce prisme de la stabilité que l'Irak a été perçu dans les capitales occidentales. Et effectivement, la manne pétrolière y est pour beaucoup. J'ai déjà mentionné le fait qu'effectivement, au cours de cette période, les revenus de l'Irak avaient explosé. C'est effectivement un moment exceptionnel dans l'histoire de l'Irak contemporain, d'autant plus que après, depuis le renversement de la monarchie en 1958, l'Irak n'avait connu que les tourments de la période révolutionnaire, qui était finalement entre 1958 et 1968, qui est le coup d'État le deuxième coup d'État des Baathistes, qui les porte au pouvoir. Finalement, l'Irak, pendant 10 ans, a vécu une période extrêmement sanglante, extrêmement instable, qui a laissé beaucoup de traumatismes et qui avait altéré qui avait marqué la perception du monde extérieur de ce pays comme étant une terre des révoltes. Il y avait un livre, l'Irak des révoltes, c'est le titre d'un livre écrit à peu près à cette époque-là par un journaliste, je crois, ou un historien, Pierre Rossi, je crois, l'Irak des révoltes. Donc, à partir de 1968, on sort de ce prisme d'Irak des révoltes. Au contraire, on entre dans une phase où l'Irak est perçu comme un pays stable, un pays où la puissance étatique n'avait été inédite, n'avait jamais eu d'équivalent depuis la création de l'État moderne irakien. C'est-à-dire que on était face à un pouvoir central qui avait une capacité extrême, en fait, à contrôler et à contraindre la société et à extraire des ressources. Et c'est véritablement ça ce qui convient de retenir de cette période-là. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle, dans l'imaginaire des Irakiens, la période qui s'ouvre en 1968 et qui va jusqu'à l'entrée en guerre contre l'Iran est perçue, encore une fois, comme un âge d'or de stabilité, un âge d'or de développement. La puissance étatique est parvenue jusqu'au moindre petit village reculé dans le sud de l'Irak. Les campagnes d'alphabétisation, d'éradication de l'analphabétisme, la promotion des droits de la femme, Saddam Hussein était perçu comme un véritable modernisateur, un dictateur certes, mais un dictateur éclairé qui menait le pays qui mettait le pays sur la voie du développement économique et social. Et je dirais ce qui a permis, c'est cette image de modernisateur, de stabilité d'air, de stabilité et de prospérité qui s'ouvre, qui a permis à l'autoritarisme de se consolider. C'est au nom de cet impératif de stabilité que les autres forces politiques présentes sur l'échiquier irakien ont accepté de prêter main forte aux Baathistes à leur arrivée au pouvoir. Et là, je parle précisément du Parti communiste irakien, qui était non seulement le premier parti communiste du monde arabe en termes de puissance, en termes de rayonnement intellectuel, en termes de nombre de sympathisants, mais qui était aussi la première force politique en Irak au moment de l'arrivée des Baathistes au pouvoir, en termes de capacité de mobilisation de la société irakienne, en termes de poids dans les syndicats, dans la vie culturelle. La vie culturelle irakienne était dominée par des intellectuels proches du Parti communiste. Les communistes vont considérer que les Baathistes, c'est un moindre mal, qu'ils ont cru pouvoir faire partie d'un front national, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Syrie. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de laisser la première place aux Baathistes à condition, en échange, du droit d'exister, du droit d'animer la vie culturelle, les syndicats. Ils ont accepté d'être des partenaires juniors de cette nouvelle équipe qui arrive au pouvoir en 1968. C'est le pari ça a provoqué évidemment des scissions au sein du Parti communiste irakien. Certains ont mis en garde contre les risques d'éradication et d'élimination de la part des barcistes, mais toujours est-il que ça a donné un répit. Le fait de neutraliser les communistes et de les inclure, ne serait-ce que nominalement, au sein du pouvoir, a permis de les neutraliser, de neutraliser leur capacité de nuisance, de neutraliser leur velléité complotiste. Donc, finalement, ça a donné aussi du répit à ce régime barciste, à cette équipe barciste qui était ultra minoritaire, qui n'avait pas de véritable relais dans la société irakienne, de pouvoir s'implanter dans la société. Évidemment, grâce aussi à la manne pétrolière qui leur a permis de multiplier les officines du parti, les organisations satellites, de pénétrer le moindre village irakien, comme je l'ai dit, à travers des membres du parti, à travers des branches locales du parti. Ça contribue à un véritable quadrillage, un maillage de la société, une présence policière extrêmement forte. Ça a aussi permis aux Irakiens, aux barcistes, de se concentrer sur l'élimination de tous leurs partenaires, adversaires. Ils ont commencé méthodiquement par purger l'armée de tous les officiers qui n'étaient pas barcistes, et évidemment avec une logique tribale et clanique et confessionnelle qui n'était pas véritablement manifeste ou consciente, mais finalement, à la fin des années 70, du jour au lendemain, on s'est aperçu qu'il ne restait quasiment plus aucun chiite dans le conseil de commandement de la révolution du Parti Basse, qu'il y avait très peu de sunnites de Mossoul, par exemple, mais qu'ils étaient plus de l'ouest de l'Irak, de la province d'Anbar et des régions de Salah ed-Din, Takrit, donc, mais de Ana et de Haditha, des régions à l'ouest de Bagdad. Donc, finalement, c'est de manière un petit peu... c'est comme si, en 1979, quand Saddam Hussein a mis en scène son arrivée au pouvoir d'une manière extrêmement spectaculaire et sanglante, par le biais d'un congrès du Parti Basse, il a convoqué ses camarades du parti. Il a d'abord mis sur la touche le président Ahmad Hassan El-Bakr pour officiellement raison de santé. Il l'a mis en résidence surveillée, et puis il a convoqué le parti en congrès, et là, il a utilisé la rhétorique complotiste. La Syrie serait derrière une tentative, évidemment, qui l'a neutralisée de coup d'État. Et là, il a, devant le congrès du parti qui était filmé, il a appelé les complotistes, une vingtaine à peu près de camarades du parti, dont un certain nombre de membres historiques du Parti Basse. Il les a donc accusés de trahison, de complot, il les a accusés de comploter avec la Syrie contre les intérêts de nationaux de l'Irak, contre le pouvoir irakien. Et finalement, ils sont emmenés en dehors de la salle et exécutés. Il y a la mise en place des tribunaux révolutionnaires, tribunaux spéciaux pour purger le parti. Et finalement, donc en 1979, quand en juillet 1979, Saddam Hussein devient officiellement le président de l'Irak, finalement, l'appareil d'État est entièrement purgé de tous les potentiels, de tous les adversaires réel ou potentiel ou virtuel qui aurait pu entraver cette ascension au pouvoir de Saddam Hussein. Donc on est véritablement à ce moment-là dans un régime autoritaire qui s'assume entièrement, qui dispose quand même d'un certain nombre d'une forme de légitimité aux yeux de la population qui apprécie la stabilité et la prospérité économique. Ça n'empêche pas que l'Irak des années, ceux qui connaissent l'Irak des années 70 ne tarissent pas d'exemples et d'anecdotes de crises, de pénuries alimentaires, parce que c'était quand même un pays socialiste et que la manne pétrolière a finalement été confisquée a pris la forme d'un capitalisme d'État avec ses intermédiaires, sa classe affairiste et corrompue, mais toujours est-il que, quand même, ça a permis un développement, ça a permis à l'Irak, finalement, qui n'avait pas connu de développement économique depuis la période de la monarchie, en fait, d'avoir des infrastructures. Là encore, la France, le Japon et l'Allemagne de l'Ouest ont joué un rôle extrêmement important dans les infrastructures du pays. L'aéroport de Bagdad, par exemple, a été construit par Bouygues. Les Japonais ont construit pas mal de centrales de traitement des eaux. Les Allemands, évidemment, ont fourni beaucoup de l'industrie lourde ont contribué à l'industrialisation du pays. Donc finalement, 79, l'Irak est un pays qui est l'autoritarisme irakien a réussi à se développer de la première force politique qui était le Parti communiste. En revanche, il y avait un angle mort que le régime n'a pas vu venir, que le régime a sous-estimé, et qui est l'islamisme chiite. Il y a, à partir du début des années 70, une effervescence religieuse chiite en Irak, qui a commencé évidemment dans les villes saintes du chiisme à Najaf et dans une moindre mesure à Karbala, autour des étudiants en théologie et des séminaristes et des grands ayatollahs. Ce sursaut du religieux en Irak était motivé au départ par le danger communiste. C'est non pas le danger de l'autoritarisme qui était en train de s'étendre, d'étendre son emprise sur la société qui préoccupait les théologiens de Najaf, mais plutôt le danger communiste. Et donc, à partir du début des années 70, il y a des organisations, des petits groupuscules, des cercles de pensée, de réflexion qui se forment pour essayer de trouver les moyens de contrer le danger communiste. Et puis, graduellement, il y a un glissement vers l'élaboration d'une pensée politique propre au chiisme et d'un modèle de société qui va se préciser davantage avec l'implication d'un certain nombre de religieux. C'est intéressant de noter qu'à cette époque-là, évidemment, Khomeini était en exil à Najaf. Il est arrivé en 1964, il y est resté jusqu'à son expulsion en 78. Mais ce qui est frappant, c'est l'isolement de Khomeini. Khomeini n'a pas vraiment eu d'interaction avec ses homologues à Najaf, avec ses homologues irakiens. Il se trouve qu'il y avait un autre religieux qui prenait de l'importance et qui avait joué un rôle extrêmement important dans ce sursaut du chiisme irakien, qui s'appelle Mohammad Baqir al-Sadr. Et Mohammad Baqir al-Sadr est aussi quelqu'un que les historiens irakiens surnomment le Khomeini d'Irak. C'est un jeune, à l'époque, c'est un jeune théologien qui est très érudit, qui a lu Hassan al-Banna, qui a lu Sayyid Qutb, qui essaye d'élaborer, face au danger communiste, une réponse islamique. Et qui se met à publier, il publie un livre qui s'appelle « Notre philosophie », un autre qui s'appelle « Notre économie », et il essaye toujours de penser une modernité islamique. Et il va avoir beaucoup de disciples, beaucoup d'étudiants, sa pensée, ses travaux seront discutés dans les cercles religieux en Irak. Et à cette époque-là, c'est important de souligner qu'il n'y avait pas de dimension confessionnelle, il y avait surtout une dimension de renouveau islamique. Et les idées de ce Khomeini d'Irak, bien avant l'émergence de Khomeini, bien avant l'éclatement de la révolution islamique d'Iran, c'est important de le souligner, il y avait une effervescence islamiste chiite en Irak qui a commencé au début des années 70. Les premières exécutions de théologiens et de militants islamistes chiites en Irak datent de l'année 1974. C'est aussi l'époque à laquelle le parti Baath, les organes de sécurité, les mukhabarat, mettent en place une cellule de renseignement spécialisée dans la surveillance et la répression des milieux islamistes chiites. Et c'est important de le noter. Comment va s'opérer avant que n'éclate la révolution islamique en Iran, il y a eu des petites révoltes en Irak, des révoltes chiites. C'est dans la géographie des mouvements islamistes chiites en Irak, on appelle ça des intifadas. Alors, elles portent toujours l'intifada de Safar. Safar, en fait, ils utilisent le calendrier hégir. Donc, il y a Safar, Sha'ban. Et la première qui prend véritablement une tournure de contestation et de remise en cause de la légitimité du régime, elle éclate en 1977. Elle est sévèrement réprimée par le régime. Et entre 1977 et 1960, ces deux années, 77 et 78, sont ponctuées à chaque occasion, à chaque fête religieuse en Irak, religieuses chiites, il y a des révoltes qui éclatent. Il y a des manifestations il y a des manifestants qui descendent dans la rue et qui crient des slogans hostiles au régime. Des slogans d'ailleurs qu'on retrouve en 1991 au moment de l'intifada contre Saddam Hussein après la défaite au Koweït. Donc il se met en place un scénario dans lequel les processions religieuses, les fêtes religieuses chiites servent de socle à la contestation, de prétexte à la contestation et d'un déchaînement de haine contre le régime barciste qui graduellement va être perçu sous le prisme de régime impie, régime athée, régime pire que les communistes et c'est quelque chose d'extrêmement important. Petite anecdote sur Mohammad Sadiq al-Sadr. Mohammad Sadiq al-Sadr a été exécuté par Saddam en 1980, au début de l'année 1980, en même temps que sa sœur Bint al-Huda, qui était aussi une militante islamiste un peu pionnière du féminisme islamiste. Ils ont été tous les deux exécutés. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mohammad Sadiq, aujourd'hui, donc première chose à noter, première chose à relever, Mohammad Sadiq al-Sadr a senti que sa vie était en danger. Il a essayé de fuir, ses disciples l'ont poussé à fuir en Iran. Ce qui est intéressant, c'est que Khomeini n'était pas vraiment... Khomeini lui a envoyé un télégramme en disant « Non, vous devez rester en Irak et œuvrer pour que la révolution islamique en Irak triomphe. » Donc, Khomeini n'en voulait pas, alors que Mohammad Sadiq al-Sadr a joué un rôle fondamental dans la rédaction. Les idées de Mohammad Sadiq al-Sadr ont été cruciales dans la rédaction de la constitution de la République islamique. L'autre élément important, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve le fils donc, de ce martyr, Mohammad Sadiq al-Sadr, qui est aujourd'hui, donc Jafar Mohammad Sadiq al-Sadr, est aujourd'hui l'ambassadeur d'Irak en Grande-Bretagne. Donc ça vous donne aussi une idée de l'évolution de ce chiisme irakien, de sa difficulté à se positionner par rapport au chiisme iranien, par rapport à la révolution islamique et aussi par rapport à l'Occident. Et je pense que il faut vraiment revenir sur ces années cruciales de d'euphorie islamiste, de militante, d'effervescence plutôt islamiste. Et l'éclatement de la révolution iranienne, finalement, a précipité la mouvance islamiste dans une confrontation, dans un basculement vers l'action armée contre le régime qui lui a été fatal. Et ensuite, on sait ce qui s'est passé. Ils ont été contraints à l'exil, ils se sont réfugiés en Iran et ils ne sont rentrés en Irak en 2003, à la faveur de l'invasion américaine. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu leur moment révolutionnaire, finalement. Et c'est à ce moment-là que la révolution islamique, à mon sens, la révolution islamique a eu lieu en Irak après 2003, puisque aujourd'hui encore, 20 ans après, ce sont des forces politiques issues de cette matrice idéologique khoméniste qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui sont aux commandes de l'Irak d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Loloa. C'est très, très, très riche ce que tu nous as dit sur ces années, effectivement, extrêmement importantes. Et on voit que la situation, pour le coup, est très différente au Liban. On n'est pas dans la même logique, si je puis dire, Irak-Syrie, où il y a des éléments de similitude, avec évidemment des différences importantes, mais quand même des similitudes. Là, on voit au Liban qu'on est dans une situation tout à fait différente, avec des ingérences extérieures dont vous avez parlé tout à l'heure, déjà très fortes, avec le poids des milices qui est important à l'époque, ce qui n'est pas encore le cas dans les pays comme la Syrie ou l'Irak. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être un peu rapidement, chez eux, parce que là, le temps commence à être compté, mais si vous pouvez nous donner quelques éléments, Stéphane, pour continuer ce que vous avez dit tout à l'heure.
Oui, alors, bon, en clair, pour le cas libanais, vous avez affaire à triple forme d'autoritarisme, si j'ose dire, un autoritarisme qui est imposé par les puissances étrangères, la Syrie et Israël. Sur l'État libanais, vous avez un autoritarisme intrinsèque aux institutions libanaises elles-mêmes qui dysfonctionnent pendant la guerre. Et puis vous avez une troisième forme d'autoritarisme qui est appliquée à l'échelle locale, c'est-à-dire à l'échelle finalement des territoires miliciens. Alors, pour la première forme d'autoritarisme, si j'ose dire, qui est imposée par le haut, c'est-à-dire par les puissances occupantes, pour le cas de la Syrie, la présence syrienne au Liban, c'est une présence multiforme. L'armée syrienne au Liban a atteint jusqu'à 25 à 30 000 hommes. En octobre 1976, les accords de Riyad avaient notamment mis en place ce qu'on appelle les forces de dissuasion arabes, qui étaient au départ composées de contingents arabes multinationaux, mais qui progressivement sont devenus unicolores, si j'ose dire, si bien qu'en 1979, les forces de dissuasion arabes sont exclusivement syriennes. Bon. La Syrie au Liban, c'est aussi des casernes, ce sont des services de renseignement, Mukhabarat. Ce sont des territoires aussi qui ont été négociés, notamment dès 1976 avec les zones rouges, qui ont été négociées entre la Syrie et Israël en 1976, au moment de l'intervention syrienne au Liban. Et ce sont donc des bastions territoriaux qui ont pu varier selon les époques, mais par exemple la plaine de la Bekaa, à l'est du territoire, constitue un de ces bastions au cours duquel, notamment en 81, une des crises les plus célèbres de la guerre du Liban, la crise des missiles de la Bekaa, qui a contribué à internationaliser la guerre du Liban, s'est déroulée. Donc, la présence de la Syrie au Liban impose une forme d'autoritarisme au sens où l'État libanais est totalement sous tutelle, c'est-à-dire qu'il faut relire les mémoires, par exemple, de l'ancien ministre des Affaires étrangères libanais, Fouad Boutros, qui explique bien que tous les quatre matins, c'est des voyages à Damas, pour savoir finalement si Hafez el-Assad est d'accord pour nommer tel ou tel ministre, tel ou tel fonctionnaire, ou tel commandant de l'armée. Donc ça en devient quasiment routinier. Et le ministre des Affaires étrangères syrien, à l'époque, d'une sorte de vice-ministre libanais, au moment notamment du sommet de la Ligue arabe de Tunis en 1979, Abdel Halim Khaddam, qui était le ministre des Affaires étrangères syrien, plaidait pour que la résistance palestinienne donc, continue à œuvrer massivement au sud Liban, alors que l'État d'Elias Sarkis était beaucoup plus sur la défensive. Et donc on sentait qu'il y avait des tensions au sein de l'État libanais entre les volontés du pouvoir et ce que la puissance syrienne voulait imposer. Alors ces tensions, en fait, elle se manifeste même à l'intérieur même du pouvoir exécutif, puisqu'on a pu noter notamment une forme de bicéphalisme au Liban entre une présidence de la République à l'époque d'Elias Sarkis qui a tendance, on veut dire, à être plutôt pris en tenaille entre les exigences syriennes et les exigences chrétiennes, et puis son premier ministre qui lui, donc notamment Salim Al-Hosse, qui lui était plutôt partisan des actions de l'OLP, si bien que ces tensions au sein de l'exécutif ont perturbé le jeu politique. Si on prend le cas maintenant de l'autoritarisme, si j'ose dire, imposé par l'autre puissance occupante, à savoir Israël, à travers notamment la création de l'État du Liban libre en 1979, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet donc à une milice qui est exclusivement financée par Israël d'exercer une autorité sur un territoire qui s'étend de 30 à 40 km au-delà de la frontière jusqu'au fleuve Litanie, c'est évidemment une présence territoriale absolument importante, à savoir que l'armée libanaise n'a absolument pas le droit de pénétrer au sud Liban. Enfin, elle n'a pas le droit de pénétrer au sud Liban en 1979, hein, il faut bien le savoir. Donc c'est une armée qui est absolument limitée dans son mode de fonctionnement. Bien. Par ailleurs, je dirais que la présence israélienne se manifeste aussi en 1979 par une sorte de sophistication des moyens utilisés au Liban, notamment pour lutter contre l'OLP. Un certain nombre d'études ont pu montrer, par exemple, la création en avril 1979, suite à une attaque qui avait été menée notamment par le FPLP dans le village de Naharia, qui avait notamment entraîné un massacre d'Israéliens. En avril 1979, a été créée une organisation à l'instigation d'un certain nombre d'officiers israéliens, une création plutôt secrète, on va dire, qui s'appelle le Front de libération du Liban de l'étranger, qui visait en quelque sorte à trouver un prétexte pour une intervention israélienne, à savoir qu'il s'agissait de recruter en fait des partisans libanais, chrétiens, chiites, qui étaient tous partisans d'une expulsion des Palestiniens du Liban pour les inciter à commettre des attentats à la voiture piégée. Donc l'idée était de créer en fait un prétexte pour que l'OLP réagisse afin qu'Israël trouve lui-même un prétexte d'intervention au Liban. Et donc on sait qu'entre 79, puisque le Front de libération Liban l'étranger a été créé en 79, entre 79 et 83, il y a eu plusieurs centaines d'attentats à la voiture piégée qui ont été notamment lancés à l'instigation de cette organisation. Les services de renseignement israéliens n'étaient pas au courant de la création de cette organisation. Begin a fini par la prouver, si j'ose dire, sans avoir été non plus au courant, mais c'est aussi une façon, si j'ose dire, pour Israël d'intervenir sur le théâtre libanais à partir de ce moment-là. En ce qui concerne, je ne vais pas trop m'étendre, mais il y aurait beaucoup à dire, en ce qui concerne l'échelon local, l'échelon des territoires miliciens, il y a évidemment aussi une forme d'autoritarisme qui se met en place, à savoir que les territoires miliciens sont des proto-États ou des mini-États, en quelque sorte, j'en parlais tout à l'heure, qui sont fondés sur, finalement, le système de la prédation, du pillage. Chaque proto-État a son système fiscal. L'État chrétien, par exemple, qui, à l'époque, exerce son autorité sur près d'un million d'individus, sur un territoire de près de 800 km², c'est un territoire qui vit notamment de la contrebande, des importations, des trafics illégaux. Les forces libanaises, par exemple, contrôlaient une grande partie des ports par lesquels arrivaient les armes qui étaient ensuite revendues, parfois même à l'OLP, et qui donc engendraient des fortunes considérables. Bien, mais plus fondamentalement, il me semble que ce qui apparaît dans les années 78-79, c'est l'émergence d'un discours au sein des territoires miliciens qui est un discours de plus en plus d'exclusion, exclusion de l'autre, si j'ose dire. Ce qu'on a pu appeler parfois le miracle libanais, à tort, me semble-t-il, ça a été justement la possibilité que des communautés puissent vivre ensemble pendant parfois plusieurs années, voire plusieurs siècles, si on remonte à l'histoire du Liban, donc lointain. Mais en 79, vous avez à l'intérieur des communautés, notamment à l'intérieur de la communauté chrétienne, et en particulier chez le chef des forces libanaises, Bachir Gemayel, vous avez un discours qui est un discours clairement xénophobe, un discours d'exclusion à l'égard des Palestiniens, voire un discours de ségrégation, voire d'anéantissement. Et cette logique, en fait, s'exprime dans une radicalisation très nette du vocabulaire qu'on peut observer donc, à partir de 79-80. Cette radicalisation vise, en fait, notamment pour les forces libanaises, qui ont unifié en fait toutes les milices hein, par la force et par la violence, il faut bien le rappeler, Bachir Gemayel a unifié les milices chrétiennes à partir de 78, avec d'une part l'assassinat d'une milice chrétienne du Nord-Liban, en tout cas d'un des leaders qui était le fils du président Frangier en 78, qui a été assassiné, et en 80, une autre milice chrétienne a été réduite dans le sang par la milice chrétienne des forces libanaises. Et donc en 80, si j'ose dire, Bachir Gemayel contrôle l'essentiel du camp chrétien. Son discours est de plus en plus radical jusqu'à ce qu'il ait, en quelque sorte, à mettre un peu d'eau dans son vin après la crise des missiles de Cuba, où son discours deviendra beaucoup plus électoraliste dans la mesure où il sait qu'il veut se présenter à la présidence en 82 et qu'il a besoin de se concilier les communautés musulmanes en particulier. Et donc le nouveau slogan de Bachir Gemayel à partir de 81 sera beaucoup moins celui d'un État chrétien que celui de ce qu'il appelait le Liban des 10 452 km², qui en gros correspondait à la superficie du Liban. Donc cette variation des discours est assez intéressante à faire remarquer, mais on a quand même une radicalisation du discours. Alors, ce n'est pas propre au camp chrétien. On trouve cette radicalisation aussi, par exemple, au sein notamment du camp Druze. J'ai pu remarquer, et c'est tout à fait intéressant, que c'est en 1979 que paraît à Beyrouth, notamment, le recueil d'entretien de Kamal Jumblatt, qui était le chef du camp Druze, Parti socialiste progressiste, qui avait été assassiné en 1977, et son recueil pour le Liban, qui avait été en fait un recueil d'entretien publié en France en 1978, était une attaque en règle du camp chrétien, qui avait été accusé en quelque sorte de monopoliser le pouvoir et d'écarter en fait les musulmans. Et cet ouvrage en fait est publié précisément en 79 et s'inscrit dans cette logique de radicalisation des discours. Bon, on sait que les relations entre les Druzes et les chrétiens, notamment dans la montagne libanaise, finiront de manière tragique par des massacres de chrétiens à l'automne 83. Bien. Donc Voilà, je crois que la spécificité libanaise, c'est précisément d'envisager le Liban à cette triple échelle, qui est à la fois l'échelle, si j'ose dire, supranationale, celle des puissances étrangères, l'échelle interne, celle de l'État, si on peut dire, ou du quasi-État, ou de l'État hybride, si on peut dire, et enfin l'échelle de l'ordre milicien, qui est encore assez mal connue, il faut dire, en raison notamment du difficulté encore à accéder aux archives des milices, dont certaines ont disparu, mais qui aujourd'hui quand même sont de mieux en mieux connues par les historiens.
Merci beaucoup. Alors, il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous êtes capable, chacun d'entre vous, en 1 minute et demie, de faire une petite conclusion sur les conséquences de cette année 79, ou on passe tout de suite la parole à la salle? Manon Nour, allez. Alors, 1 minute 30 max.
Alors, très vite. On a déjà dit beaucoup de choses, donc c'est juste pour donner un peu les éléments de la suite. Si 79 est un tournant et est perçu comme un moment de basculement par les contemporains, la suite leur donne raison. Et donc la répression mise en œuvre par Assad ne vient pas à bout du mouvement. Je cite juste les grands événements. Il y a une tentative d'assassinat contre Assad en juin 80 qui va aussi lancer une vague de répression, le massacre des prisonniers à Palmyre, et qui va faire que l'appartenance aux Frères musulmans est désormais punie de mort. Et du côté des Frères musulmans, les partisans de l'option militaire l'emportent, notamment à travers l'avant-garde combattante, et cette montée en puissance des tensions arrive à, donc la nuit du 2 février 82 à Hama, avec une nouvelle insurrection où la répression sera massive et fera entre 10 000 et 25 000 morts selon les sources. Ce qui est intéressant, alors donc ça marque un peu comme sur la scène irakienne, hein, le départ des Frères musulmans qui vont se réorganiser en exil. Mais ce que je voulais préciser, c'est qu'il y a une autre opposition qui est aussi réprimée à ce moment-là, c'est toute l'opposition de gauche qui a participé aux protestations dans les années 80. Il y a des protestations civiles importantes, des grèves générales à Alep et dans d'autres villes. Et cette opposition, elle crée un rassemblement, le Rassemblement National Démocratique, qui va réunir les Nassériens, les communistes qui n'ont pas rejoint le Front National Progressiste, les bassistes de 66 qui ont été mis à l'écart par Assad. Et c'est dans le paysage politique syrien, c'est important de les mentionner, parce que c'est une opposition qui existe, qui est relativement structurante, même si elle est surtout faite d'individualité, et qui entre aussi en crise au début des années 80 du fait de la répression qui est beaucoup plus large que la lutte contre les Frères musulmans. Qu'est-ce que je voulais dire ? En 82, les Français concluent que la révolution bassiste est irréversible en Syrie, donc on confirme le schéma. Je veux juste dire que symboliquement, en 80, la Syrie change son drapeau pour marquer son désaccord avec la politique égyptienne, parce que le précédent était un drapeau qui marquait l'union avec l'Égypte et la Libye, et que toute cette séquence d'événements qu'on a décrite va aussi arriver au fait que la Syrie s'aligne beaucoup plus franchement sur l'allié soviétique, en acceptant de signer ce qu'il avait toujours refusé de faire jusqu'alors, un traité d'amitié et de coopération avec l'URSS en 80. Donc on voit comment la scène interne a une influence sur la politique régionale et internationale de la Syrie, et que symétriquement, en 79, les Américains placent la Syrie sur la liste des États soutenant le terrorisme. Donc on a vraiment un curseur qui se déplace. Et voilà comment la Syrie aborde les années 80. Si on revient un peu à la thématique de la séance, Assad aussi, entre le costume et le treillis, la répression est massive, elle durera. Il arrive à faire oublier pour les 20 années qui vont suivre la question de la société, les questions internes, au profit de l'approche géopolitique dans laquelle il excelle malgré les difficultés qu'on a décrites. C'était quand même trop.
Non, merci beaucoup, Manon. Est-ce que Louloua, 1 minute? Pas plus.
L'année 79, c'est... Effectivement, c'est la marche vers la guerre. La guerre, l'affrontement, l'entrée en guerre de l'Irak en septembre 1980 semble inéluctable. Il y a toute une série d'événements qui poussent l'Irak, qui poussent le pouvoir, enfin le régime de Saddam Hussein à basculer dans cette guerre. Je crois que ce qui est important, c'est la révolution. là, il ne faut pas occulter l'histoire justement de cette effervescence chiite proprement irakienne. Il ne faut pas voir la mouvance chiite irakienne uniquement sous le prisme de la dépendance. Ce n'est pas une pure fabrication ou un produit dérivé du communisme. C'est aussi un mouvement qui s'enracine dans la société irakienne et qui au cours des années 70 va se radicaliser et va entrer en confrontation avec le régime. Et à ce moment-là, l'impensé de l'entité politique irakienne, c'est-à-dire la dimension confessionnelle, la part du chiisme, l'identité du chiisme irakien va devenir problématique. Et la guerre Iran-Irak en attestera. La répression qui va s'abattre sur les militants islamistes irakiens, Hezb al-Dawa, en fait, qui est le premier parti islamiste chiite d'Irak, ces gens-là vont être frappés par une répression extrêmement sanglante. Des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes militants de Hezb al-Dawa seront exécutés. Ceux qui arriveront à survivre n'auront d'autre choix que de se réfugier en Iran. Et c'est à partir de l'Iran qu'ils vont se reconstituer et qui vont former l'embryon de l'opposition irakienne qui montera en puissance ensuite tout au long à partir donc des années 80, mais qui deviendra extrêmement visible et choyé par toutes les capitales occidentales dans les années 90 après l'invasion du Koweït. Et c'est cette opposition irakienne dominée par les islamistes qui va jeter les bases de l'Irak d'aujourd'hui, de l'Irak post-Saddam Hussein. Donc l'année 79, c'est le basculement dans l'autoritarisme de Saddam Hussein bascule dans un niveau encore plus sanglant. La société est entièrement muselée, la terreur, le règne de la terreur, et il y a la guerre qui va anéantir tout ce que l'Irak a construit dans les années 70, cette prospérité, ses infrastructures. L'Irak sortira des 8 ans de guerre contre l'Iran complètement exsangue. L'Irak sortira extrêmement endetté et n'aura plus de choix que de pratiquer la fuite en avant, et l'invasion du Koweït apparaît comme un prolongement naturel, une tentative désespérée d'accéder à des ressources ou d'extraire des ressources, de faire payer les pays du Golfe, et aussi une tentative désespérée de redonner une cohésion nationale à la société irakienne qui sort complètement affaiblie de la guerre contre l'Iran. Donc voilà, mais je dirais que la guerre, l'année 79, c'est véritablement la dimension confessionnelle qu'on retrouve aussi en Syrie, qui est l'impensé de l'entité politique irakienne qui explose, et depuis, je dirais, depuis 1979, l'Irak ne fait que composer avec cette dimension confessionnelle, essayer de trouver un point d'équilibre, un modus vivendi entre la majorité chiite et les autres composantes de la société irakienne, les sunnites bien entendu, mais les kurdes aussi. Et on en est toujours là aujourd'hui. Voilà.
Merci.
Mais pour moi, l'Irak d'aujourd'hui est... Pardon, je me tais.
Merci. Stéphane, pareil, en une minute trente, quelques mots.
Oui, si. Quelques mots à propos justement des chiites du Liban. Quelques idées reçues justement sur lesquelles il faut faire attention. Non, l'année 79 ne marque pas le début de la présence iranienne au Liban. Les relations entre l'Iran et le Liban sont des relations très anciennes, hein, qui remontent même donc à la conversion du Shah Ismail donc au chiisme duodécimain, puisque une partie du clergé iranien a été notamment recrutée au début du XVIe siècle dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Jabal Amin, c'est-à-dire le sud Liban. Donc sur des relations très anciennes qui se sont poursuivies tout au long du XXe siècle, à l'époque du Shah. À la fin des années 60, un personnage assez charismatique a émergé, le cheikh Moussa El Sadr, qui est en fait originaire donc de Homs au Liban et qui apparaît, donc qui est arrivé au Liban dans les années 50, qui a obtenu la nationalité libanaise d'ailleurs, et qui a pris en charge en fait les revendications des chiites du Liban en faveur d'une émancipation économique et sociale. Et donc Moussa El Sadr a fondé une organisation en 1974 qui s'appelle le Mouvement des Déshérités, qui a fini par se militariser, notamment avec l'aide de Yasser Arafat et de l'OLP, puisque beaucoup de militants chiites ont été formés notamment dans les camps de l'OLP. Et donc Moussa al-Sadr a été le grand personnage en fait charismatique qui a été pour la communauté chiite, en tout cas jusqu'à sa disparition en 78 en Libye, le personnage central. La deuxième idée sur laquelle je voudrais terminer, c'est que quand on pense à la création du Hezbollah, il faut plutôt effectivement penser que c'est la conséquence de 82 plus que la conséquence de 79. Le Hezbollah a été fondé par des personnalités qui avaient d'abord la nationalité libanaise, mais qui ont été formées en Irak, notamment à Najaf, qui ont suivi pour certains les cours de Khomeini, mais qui sont pour la plupart des Libanais, hein, qui sont pour la plupart des Libanais et qui se vivent au départ comme des résistants à l'intervention, à l'occupation israélienne. Donc le Hezbollah, au départ, donc c'est un proto-Hezbollah plutôt, avant 84, qui ne se pensait pas en parti politique, mais qui est donc au départ le fruit de plusieurs courants, dont certains voulaient en effet la création d'une république islamique au Liban, mais ce courant-là n'a jamais pu aboutir. Un courant qui voulait, lui, au contraire, lutter contre la présence israélienne, à travers notamment un de ses fondateurs, Abbas al-Moussaoui, et un courant plus quiétiste, qui, incarné par le cher Fadlallah, qui, lui, n'était pas nécessairement dans une optique de guerre contre Israël. Bon. Donc, au final, le Hezbollah n'existe officiellement qu'à partir du printemps 84, voilà, et pas avant. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Alors maintenant, je me tourne vers les organisateurs. Est-ce qu'on laisse un petit peu de temps avec la salle ? Parce que la séance suivante, normalement, commence à 16h, il est 16h02. Donc, que fait-on ? Je vous laisse... On passe à la table suivante. Bon, absolument désolé, mais je crois que les interventions en valaient la peine. Donc,
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.